Mondial Sport,
RFI,
Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI. Il faut être deux pour un combat du siècle. Il y a près de 50 ans, Mohamed Ali triomphait sur le ring du stade Tata Raphaël de Kinshasa à l'occasion du Rumble in the Jungle, un événement qui n'a pas seulement marqué l'histoire de la boxe, mais l'histoire du sport de l'Afrique et un peu plus encore. Mais si Mohamed Ali a triomphé et récolté justement la gloire, c'est qu'il y avait un péril face à lui. Et quel péril ? George Foreman, le destructeur, durant le combat, allié dans les cordes avant de s'engouffrer dans la faille et de détruire à son tour son adversaire. George Foreman tombe KO et devient quelque part le perdant du plus grand affrontement de tous les temps. Mais pas question de résumer George Foreman à cette défaite, encore moins après avoir appris sa disparition vendredi à l'âge de 76 ans. Aujourd'hui dans Mondial Sport, nous rendons hommage à la légende des poids lourds, une légende au parcours extraordinaire.
George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you, I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
Hell, I think Ali was scared.
So you wait, George fights. George comes out with, I'll name him the mummy.
With his ego, he could keep telling himself that he would dominate Foreman, that he would beat him, that he would dance, that he would make a fool of him. He had to know that he had not done nearly as well against two fighters particularly, Joe Frazier and Ken Norton, whom Foreman had demolished.
Down goes Frazier! Down goes Frazier! The heavyweight champion is taking the mandatory eight count, and Foreman is as poised as can be. Foreman is going about his job.
He
Foreman
had an overpowering intensity when he punched. Foreman was awesome.
The second time.
This chump has got everybody scared. Scared of what? Nothing to be scared of. Scared of what?
En fait, pour être honnête, je connais pas grand-chose sur les combats qui avaient opposé Foreman et Ali parce que ces combats avaient eu lieu bien avant ma naissance. Mais j'ai su au moins que l'Américain George Foreman a marqué l'histoire suite à sa défaite face au grand champion Mohamed Ali lors d'un combat légendaire qui s'était déroulé à Kinshasa le 30 octobre 1974 au stade Tata Raphaël. Mon défunt père, qui fut aussi mon coach personnel, il me parlait souvent du boxeur Foreman, sa façon de boxer et aujourd'hui, une page de l'histoire de la boxe tourne.
Un extrait de When We Were Kings, un film documentaire des années 90 sur le combat Ali Foreman. On y entend donc Mohamed Ali à l'époque, avant le combat, se moquer de son futur adversaire, George Foreman, en conférence de presse. Il marche comme une momie, nous dit-il, devant un parterre de journalistes hilar. Tout le monde a peur de lui, mais pas moi. Sauf que si, en fait, Mohamed Ali avait bien peur de George Foreman, c'est en tout cas l'avis du grand écrivain Norman Mailer, amoureux du noble art. Nous venons également d'entendre une autre voix de la boxe, une héritière quelque part de ce combat du siècle, une Congolaise, la porte-drapeau de la RDC lors des Jeux Olympiques de Paris, à savoir Brigitte Mbabi, contactée par notre correspondante à Kinshasa, Olga Massangou. Une autre héritière, une autre boxeuse, une autre porte-drapeau olympique est avec nous, la malienne Marine Camara. Bonjour Marine.
Bonjour Hugo.
Nous avons rassemblé une équipe de choc, nos Avengers à nous, afin de rendre hommage à George Foreman aujourd'hui. Justement, le professeur X est avec nous, Xavier Foupa-Bocam. Comment allez-vous, Xavier ?
Je suis le professeur X et c'est l'heure de la punition. Ça va très bien, mon cher Hugo.
Et c'est l'heure du recueillement aussi. On va être en mode un peu triste aujourd'hui, forcément. Surtout ce petit garçon qui était scotché devant sa télé en Côte d'Ivoire un jour d'octobre 1974 et qui s'est joint à nous. Bon, il a un peu grandi, hein, vous allez vous en rendre compte avec sa voix. Bonjour Malik Dao.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Qu'est-ce que fait un petit garçon de 9 ans, c'est ça, devant sa télé à quoi, 9h du matin?
Non,
il était à 4h du matin.
Non, il était 4h du matin, le lendemain il y avait école.
Voilà, c'est voilà, ça, il y avait école à 9h.
Voilà, je voulais pas laisser passer, je me suis même fait taper par les parents, mais il fallait que je voie ça. parce qu'à cette époque-là, j'étais un fan absolu d'Ali. J'avais mal vécu la défaite d'Ali contre Joe Frazier. Et donc, ce combat-là, pour moi, non, il fallait que je le voie et en direct.
Et je pense que pas mal de jeunes Africains étaient dans le même cas que vous. Enfin, la Bible du noble art, commentateur légendaire, auteur également, Jean-Philippe Lustig complète l'équipe. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour à tous et à toutes, c'est sympa d'être là.
Le grand livre de la boxe, c'est sympa de vous retrouver. Le grand livre de la boxe aux éditions Marabout, nouvelle édition augmentée. Donc ça, c'est à feuilleter si vous êtes un fan de boxe, si vous voulez découvrir ce qu'il y a à découvrir sur les grands boxeurs de l'histoire. Et j'imagine que...
Ah oui, il y a une grosse part sur Foreman.
Voilà, Foreman, il tient une place importante.
Ah oui, énorme, normal. Bien sûr, c'est l'actualité. C'est vrai que le livre, je raconte beaucoup de choses. Ce sont les plus grands combats mythiques.
Aux éditions Marabout. Un autre ami de Mondial Sport a pris le temps de décrocher son téléphone pour quelques minutes. Il se trouve dans le pays de George Foreman, justement, de Mohamed Ali et bien d'autres. La vedette française Souleymane Cissokho est en direct avec nous. Bonjour Souleymane.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en direct de San Francisco, puisque c'est dans ce pays, enfin plutôt dans cette ville des États-Unis que vous perfectionnez votre noble art. Est-ce que vous avez senti sur place que dans le monde de la boxe, eh bien, on venait de perdre une légende, un grand frère, un père, un repère, un modèle?
Oui, bien sûr, on l'a senti là. Moi, je l'ai senti autour de moi. En fait, c'est une icône. Hein. On avait perdu une icône. Ils en parlent tous. Surtout des anciens parlent de ça parce qu'il a représenté plus qu'un sportif. Et c'est vrai que ça a été triste d'accueillir cette mauvaise nouvelle.
Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement sur ce qu'il représentait, sur ce qu'il avait pu inspirer, George Foreman?
George Foreman, il a beaucoup inspiré, surtout la jeunesse américaine. C'est un très grand champion. Preuve de résilience aussi, il a arrêté sa carrière pour être tourné vers autrui et puis derrière il est revenu 10 ans plus tard, qu'il revient encore champion du monde. Et avant ça, il y a eu tout ce qui est toute la partie olympisme, hein. Il a fait les Jeux Olympiques, il a été champion olympique, ça représente énormément dans ce pays. Et puis devenir champion du monde à multiples reprises, c'était exceptionnel, hein. Il a une carrière qui a été exceptionnelle, un style vraiment unique en tant que poids lourd, et on parle toujours de lui aujourd'hui parce qu'il a vraiment beaucoup représenté.
C'est quoi le style unique? C'est une manière de frapper plus fort, beaucoup plus fort que les autres?
Bah déjà, son profil atypique, grand, un jab qui est impressionnant, un crochet gauche qui est phénoménal, très puissant, vraiment très 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 puissant. Et puis une défense, vraiment un style à lui, hein, la défense Foreman, avec les deux mains un peu ancrées comme ça au niveau du buste. Un boxeur qui encaisse énormément, qui savait bouger, avancer.
Un boxeur
surtout,
agressif aussi, pour un poids important, un boxeur qui était très agressif aussi.
Bien sûr, très agressif, et qui faisait parler, bien sûr, de ses points sur le ring, parce qu'il était vraiment très, très, très puissant.
Ouais, hors norme. Oui. Souli, salut, oui, non, mais c'est vrai, sa puissance dévastatrice. Il est Foreman dans les années 70, le Tyson des années 80. C'est-à-dire que
c'est ça.
Sa force destructrice, l'avantage psychologique et mental qu'il a est dément. Il est aussi effrayant, Foreman, face aux adversaires, que Tyson l'a été quand il était intouchable entre 85 et 90. On est dans la même configuration. Et sa frappe est lourde. Elle vous ébranle. C'est hallucinant quand il met KO, quand il bat Frazier en deux rounds et qu'il l'envoie au tapis 6 fois. Ouais. On se souvient d'un uppercut du droit. Et si vous regardez les images, on sourit aujourd'hui. Mais c'est dingue. C'est en Jamaïque quand il prend le titre. Et donc Frazier le perd en deux rounds. Il décolle. Ouais. Donc ça veut dire que sur 10 cm, il décolle. On n'a jamais vu ça. Big George Foreman.
Souleymane Cissokho, quand on est un boxeur, forcément vous êtes beaucoup plus jeune que George Foreman, vous êtes de la génération actuelle. Est-ce qu'on se doit de connaître la vie, l'œuvre, de regarder des vidéos, des combats, de ces légendes qui sont venues avant? Est-ce qu'on doit étudier leur style? Est-ce que ça fait partie de l'apprentissage du noble art?
Bien sûr, ça fait partie de l'apprentissage du noble art. Hein. C'est faut étudier ces genres de boxeurs-là. Et puis, il faut savoir que George Foreman, dans la catégorie des poids lourds, c'est vraiment une icône. Ça, il fait partie des meilleurs, mais toutes catégories confondues, et pas que, mais vraiment de toute la période boxe, c'est l'un des meilleurs boxeurs. C'est un boxeur qui est exceptionnel. Et bien sûr qu'on l'a étudié, parce que pour moi, il a été champion sur le ring et en dehors du ring. Et ça, c'est toujours très inspirant. Toujours très inspirant, il a été tourné aussi vers autrui, il est devenu prêtre, etc. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il nous a fait. Et le fait aussi de raccrocher les gants et de revenir 10 ans plus tard, pour reconquérir le titre de champion du monde. Ça, c'est ça qui m'a en tout cas beaucoup marqué dans sa carrière.
Oui, c'est vrai que sa carrière, donc on le reprécise, elle débute avec un titre olympique en 68 à Mexico et elle s'achève dans les années 90. Il y a une période, on va dire, où il abandonne les rings entre-temps pour devenir, pour entrer dans les ordres, pour aller dans la religion, si je puis dire. Il redevient champion du monde à un âge où on ne devient pas champion du monde, on ne redevient pas champion du monde.
À 45 ans. Et surtout après 10 ans d'arrêt, hein, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire la fin des sacrifices, la fin du travail, là, on se rapate un petit peu, on pense à autre chose, on perd ses objectifs, ses ambitions, puis d'un seul coup on se remet en selle, donc on rattrape le retard qu'on a pris pour rattraper son niveau et ensuite continuer à progresser et rivaliser avec les meilleurs du monde et les battre. C'est incroyable de résilience. Oui.
10 ans d'arrêt et 15 kilos en plus.
Oui, voilà.
Pour rajouter aussi le poids, c'est vrai.
Marine Camara, vous êtes d'accord avec ce que dit Souleymane Sissoko, on se doit d'étudier le passé, l'histoire de sa discipline?
Exactement, et je pense que sa spécificité, comme celle d'Ali ou des grands champions de cette époque, c'est qu'ils existaient énormément en dehors du ring. Quand on parle de George Foreman, on a bien sûr le boxeur, mais on a aussi l'entrepreneur, le pasteur, le père de famille. Et je pense qu'en étant un modèle pour une grande génération, comme il l'est toujours, bah, il a influencé et montré qu'on pouvait réussir peu importe d'où on vient. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a, il est quand même issu d'un milieu compliqué, il a eu des cas de délinquance, etc. autour de lui. Donc ça montre à cette époque-là, et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi symbole du rêve américain, qu'on peut faire quelque chose et que rien n'est impossible.
On va vous laisser poursuivre votre rêve américain à vous, Souleymane Sissoko. Merci d'avoir pris le temps, alors que le soleil se lève à peine, du côté de la baie, j'imagine, de San Francisco. On va vous laisser aller à l'entraînement.
Et il boxe le 10 mai,
tranquillement.
Pardon, Hugo. Hein,
allez-y.
Non, mais c'est vrai, on peut en parler hein, rapidement. Hein,
parce Jean-Philippe que... Lustig fait votre promotion, Souleymane.
Non, mais c'est vrai, voilà, je veux dire, t'es de retour, on t'attend avec impatience. Et en plus, en Guinée, le 10 mai. Hein.
C'est ça. Et juste, je veux rajouter une chose, c'est
bien
que.
Sûr.
Moi, ce genre de combat-là, Ali contre Foreman m'a beaucoup inspiré pour pouvoir vraiment boxer en Afrique. Ça, c'est des combats qui m'ont marqué et j'ai toujours voulu boxer en Afrique. Et là, j'ai l'opportunité de pouvoir boxer en Afrique le 10 mai pour une Final Eliminator, donc une finale mondiale. Et ça, je suis très content de pouvoir faire ce combat-là. Voilà.
En Guinée équatoriale, vous avez bien fait d'ajouter ce mot qui, à mon avis, fera très très plaisir aux auditeurs de RFI. Merci beaucoup Souleymane Sissoko d'avoir pris quelques
Merci
minutes pour nous parler Merci. De la disparition de George Foreman. Émission spéciale Mondial Sport rend hommage à la légende des poids lourds ce dimanche sur RFI.
Kana sangwe ma Ewa Babingi kwaya tuinga tu mamu Ewa Ewa Mame mamu mamu Ewa Ewa Mame mamu mamu Ewa Yachi wa kwani kopa Nanye malembo kwa wa Kwenda njimone wonga, meninge kumvwiri, ambe mutimani. Kwenda njimone buma, kentwani. Si je mens, je me punis, nzambi kansemba si je mens. Napola mvula munge, malonga ingiri ya kana sangwe mami. Babingi kwa ya tuinga dyo. Solo sono la mana jingile Lue kamori ampagre ya ya Lue kanchana mundu mo singwile ya koko Mbantulu ze kazi mo si Mwatulu na mbelolo ya ka imosye Njilulu ye ka ya tela kana Ambewe na samulu solo Malonga yungi ya kana sangwe Babingi kwa ya tuinga jo Mame mamo
Mel Malonga, Freddy Massamba, ça vient de la RDC et de la playlist de RFI, ça s'appelle WA. Extrait des dernières scènes du film Ali de Michael Mann, sorti il y a quoi, 25 ans, 24 ans maintenant, avec Will Smith dans le rôle de Mohamed Ali. Will Smith qui affronte donc pour la fin de ce long métrage de Michael Mann, George Foreman à Kinshasa, à l'occasion du Rumble in the Jungle. Impossible de parler de George Foreman sans parler de cet affrontement légendaire, défaite à l'arrivée, alors que... Franchement, Foreman, sur le papier, Jean-Philippe Lustig peut être considéré comme favori avant ce combat, parce que il est, sur les premières années de sa carrière, tout simplement exceptionnel. Alors, on va peut-être partir, même remonter encore avant. Marine Camara y faisait allusion. Une enfance difficile, en tout cas il vient d'un milieu difficile, il vient du Texas, c'est là également qu'il s'est éteint, George Foreman, dans cet état à l'âge de 76 ans, et une enfance donc marquée par la pauvreté, j'imagine, la violence
surtout. Au contraire d'Ali, hein. Ali souffre de ségrégationnisme, en revanche il ne souffre pas de pauvreté, c'est un middle class, il faut bien le savoir, il n'a pas eu faim, Mohamed Ali, au contraire de George Foreman, d'un milieu ultra violent. La boxe l'en sort, il commence la boxe à 15 ans, il arrive tard sur la boxe, il a qu'une vingtaine de combats, il fait les sélections américaines, il va progresser très vite, il est champion olympique grâce à sa force destructrice, tout simplement. Et ensuite, c'est ce parcours extraordinairement percutant, 69-73, il prend le titre mondial, il le défend trois fois, et donc il y a ce match-là, il est l'énorme favori. C'est-à-dire que personne ne peut imaginer, il est né en 42, donc il a 32 ans, Ali revient, on le sait. Il y a eu ce retour historique devant Frazier en 71, où il subit sa première défaite de sa carrière. Après, il a enchaîné les victoires. Mais on se dit, c'est impossible qu'il puisse gagner. En raison du profil de George Foreman, de sa carrière, de la vieillesse, entre guillemets, de Mohamed Ali, et le fait que l'autre est tellement effrayant, on ne trouve pas de solution en se disant, comment peut-il s'imposer ?
Voilà. Il est invaincu, en plus.
Mais il est invaincu, donc il est dans une spirale, il a 25 ans, il se sent fort, invincible, invaincu, et il n'y a aucune raison dans sa tête et dans la tête de tous les spécialistes et tous les fans qu'il puisse être battu par Ali, aussi grand qu'Ali soit-il.
Malik Daou, vous étiez à 9 ans donc fan de Mohamed Ali, c'est pour ça que vous étiez mis devant votre télévision ce soir, cette nuit d'octobre 1974, vous vous souvenez un petit peu de l'attente autour de ce combat, comment on l'annonce, comment on sent que quelque chose monte, l'événement que ça peut représenter. On est à peine plus de 10 ans après l'indépendance, alors c'est le Zaïre, mais le Congo belge est indépendant depuis 1960. Beaucoup de pays africains sont indépendants depuis très peu de temps. On imagine ce que représente l'organisation pour un jeune Africain d'un tel combat.
Oui, il y avait une grosse attente, hein, une grosse attente dans toute l'Afrique, et je peux même dire qu'en Côte d'Ivoire, on était un peu jaloux que ça se passe au Zaïre et pas chez nous, parce que il y avait aussi une petite rivalité entre le président Oufouette et le président Mobutu, et pourquoi ça se fait chez Mobutu et pas chez Oufouette. Donc il y avait cette rivalité-là, il y avait cette attente-là, et puis on se dit, non, mais Ali ne peut pas perdre encore, quoi. Même s'il est plus vieux, il est le plus beau, il pique comme une abeille, il vole comme un papillon, il ne peut pas perdre. Mais le début du combat, moi, en tant que fan d'Ali, j'ai peur. Parce que je vois Ali se réfugier dans les cordes, il encaisse. Je dis, fou là là, est-ce que ça va durer cette histoire? Et puis bon, il y a ce 8e round. Mais j'avoue qu'avant ça, j'ai quand même eu très très peur que Ali connaisse la défaite, tellement Foreman dégageait cette impression de puissance.
Est-ce qu'il y avait aussi un décalage dans les images que renvoyait? On sait que Ali, c'était l'homme engagé. Est-ce que, par exemple, il avait un peu plus gagné le cœur des Congolais ou du public africain, là où George Foreman était peut-être moins occupé par ces questions-là?
Je pense qu'il avait gagné la bataille de la communication. Il avait remporté la bataille de la communication en faisant passer Foreman pour un ségrégationniste. Lui, il est celui qui aime les Noirs. Pourtant, quand on regarde...
C'était pas aussi simple, j'imagine.
Voilà, quand on regarde leur couleur de peau, pourtant, il n'y a pas photo. Ali gagne cette bataille-là. Et puis, il apprend cette petite phrase à Ali Boumaye qui va faire en sorte qu'il gagne le cœur de tous les Kinois à cette époque-là. Ali tue-le en Lingala. Et nous, même en Côte d'Ivoire, on ne comprenait pas le Lingala, mais cette phrase, on la comprenait, quoi. Ali Boumaye, Ali Boumaye. Et donc, je pense qu'au niveau com, Ali avait déjà gagné le combat. Et puis, finalement, ça s'est traduit sur le ring, mais ça a été dur.
Xavier Foubapokam et Marine Camara, j'imagine que vous n'étiez pas devant votre télé ce jour de 74 pour des raisons
relativement temporaires, disons ça.
Et est-ce que vous l'avez revu ou est-ce que vous avez vu des choses dessus qui font que vous comment il a traversé votre vie, votre parcours, ce
oui,
combat-là?
Ah oui, revu, entendu parler à maintes reprises, que ce soit par le film qu'on a vu avec Will Smith, ou alors à toutes les fois où on a entendu parler boxe anglaise, c'était le combat de référence, à la fois pour parce que finalement c'était c'était des deux icônes de l'époque, et c'était la victoire de la stratégie sur la puissance, et puis en plus il y avait tout ce contexte géopolitique de l'époque qui venait en rajouter encore par dessus. Donc oui, j'ai beaucoup entendu parler de ce combat-là et du fameux rope-a-dope de Mohamed Ali qui avait permis de gagner ce combat. Ouais.
Est-ce que, Marine Camara, il y a quelque chose à étudier dans ce combat? Est-ce que ça vous inspire, cette idée de Mohamed Ali? On peut presque le dire comme ça, qui prend des coups, et puis qui, finalement, va piquer comme l'abeille une fois que voilà, il y a une petite faille dans laquelle on peut s'engouffrer.
Bien sûr, parce qu'il a déjoué tous les pronostics. Et ce qui est marrant, maintenant qu'on voit l'hommage qui est fait à George Foreman, c'est qu'à cette époque-là, on pensait qu'Ali était le gentil. On pensait que Foreman était un méchant et du coup, tout le monde était derrière lui. Moi, je me rappelle qu'on m'avait offert le DVD When We Were Kings et également l'affiche officielle du combat. Donc, dans ma chambre, j'ai cette affiche-là. Et je me disais, Ali, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est le défenseur des droits, personne ne peut être contre lui. Foreman, c'est le vilain, le méchant, oui, etc. Et de se dire qu'Ali avait réussi ça, c'était ultra impressionnant, ultra motivant. Et quand on voit aujourd'hui qu'on a du recul et qu'on voit comment Foreman a changé la trajectoire de sa vie, on se dit, ah, peut-être qu'effectivement, à cette époque, Ali bénéficiait un peu d'un tout-pouvoir, parce qu'on se rend compte que finalement, Frazier non plus n'était pas un méchant, que Foreman non plus n'était pas un méchant. Et ça, on l'apprend seulement quand on s'intéresse vraiment à la culture de la boxe.
Donc vous êtes presque parti de ce combat-là pour étoffer ensuite et nuancer votre culture de la boxe et
exactement,
de l'histoire de cette boxe. À croire que vous avez peut-être lu du Jean-Philippe Lustig, hein, pour emmagasiner ce savoir.
Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est exactement ça. Ali, c'est un... Au-delà du phénomène, au niveau de la gestuelle, de la coordination, ce qu'il dégageait sur un ring, qui était assez unique, même si c'est inspiré du grand Sugar Ray Robinson, c'est que c'est le premier boxeur qui entre dans la tête de l'adversaire. Ouais. Par un jeu médiatique, par une intelligence diabolique.
Ah oui, c'est le départ du trash-talking, oui, effectivement.
Non, mais c'est lui l'initiateur de cela.
C'est ça.
Et c'est là où Frazier aura du mal à saisir au premier degré et qu'il va être touché, atteint par cela. Et Foreman aussi a été ébranlé par ça. Et c'était une manière pour Ali de lutter contre sa peur, qui était réelle, qui était profonde. Norman Mailer l'a dit dans le film When We Were Kings, donc l'auteur qui a beaucoup écrit sur le...
Et qu'on a entendu d'ailleurs au début de l'émission.
Dans l'extrait, donc l'écrivain américain, à la fois journaliste et écrivain, il expliquait. Et ça a été une manière pour lui de surmonter cette peur en permanence, de dire « tu es effrayant, j'ai pas peur de toi », etc. Un petit mot qui est, si vous le permettez, sur au niveau tactique. Lorsque justement, il est dans les premiers instants, ce n'était pas prévu. Angelo Dundee, son entraîneur, a été surpris de la posture d'Ali, qui décide en début de match de se mettre dans ces cordes-là qui sont assez relâchées et d'encaisser des coups. Pourquoi? Parce que la tactique d'Ali et Dundee n'était pas d'accord, le grand Angelo Dundee. C'était Foreman est un sprinter.
Ouais.
Il gagne 2 rounds, 3 rounds maximum. Si je l'amène au-delà d'un 5-6e round, il va s'épuiser et il va être dans sa tête, le doute s'installera. C'est d'ailleurs exactement la même chose qui s'est passé pour certains adversaires de Tyson qui avaient compris qu'il fallait passer leur âge. Et donc, c'est cette posture-là qui avait surpris tout le monde. Quand il prend des coups ébranlés, etc., et qui sourit, non. Et ça a installé Foreman, voyons, qui ne peut pas le descendre. Et donc, Foreman va s'épuiser alors qu'il n'a pas le même fond, et que l'autre va donc, au fur et à mesure, il y a donc ce mouvement-là de balance. Et c'est ça qui permet à Ali ensuite de s'imposer et gagner dans le huitième. Il y a un jeu psychologique exceptionnel.
À mon avis, ça a dû inspirer notre professeur X qui aimait bien rentrer dans la tête des
C'est un schéma qu'on voit très très souvent, effectivement. Et moi, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. Jean-Philippe le disait, effectivement, moi, notamment en début de carrière, j'ai beaucoup d'adversaires qui me provoquaient, qui m'insultaient, qui tentaient de me sortir... De me déstabiliser, en fait. Enfin, j'ai eu des gars qui me piétinaient à la pesée, je sais pas, je combattais en Afrique du Sud une fois, t'avais toute une équipe d'Afrikaners qui faisait entre 100 et 120 kilos, alors que moi, j'étais chez les moins de 84, qui nous regardaient en rigolant comme ça, alors que nous, c'est trois petits Français, 84, 77, 70 kilos, et au final, on les a bousillés, parce que moi, je savais... comme disait Jean-Philippe, c'est qu'en fait, un adversaire qui tente comme ça, avant le combat, de te faire sortir du combat, ouais. C'est qu'en fait, lui-même, il manque de confiance en lui. Et c'est des enseignements qu'on tire de ces combats-là, tout comme la stratégie de laisser passer l'orage, le fameux rope-a-dope, où je prends les coups, j'absorbe l'impact avec les cordes, et à un moment donné, quand je sens qu'il est cuit, c'est à mon tour d'accélérer.
Voilà, le MMA et la boxe, finalement, on trouve beaucoup plus de points communs que d'opposition qu'on essaye parfois d'entretenir. On essaie d'entretenir pour la passion du débat dans cette émission. On continue à rendre hommage dans Mondial Sport à George Foreman, mais tout de suite un petit coup d'œil sur l'actualité sportive de ce dimanche 23 mars.
Mondial Sport.
Il attendait tranquillement dans nos cordes à nous, Baptiste Leduc, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors vous voulez nous parler de football, et c'est bien normal puisqu'il y a des éliminatoires Coupe du Monde 2026, et notamment en Afrique.
Oui, effectivement, le Gabon qui s'est imposé 2-1 au Kenya, donc dans ses éliminatoires. Un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, évidemment, et le mano à mano avec la Côte d'Ivoire qui continue dans ce groupe F. Les Panthères chipent la tête avec 15 points, mais les éléphants auront l'occasion de la reprendre demain en cas de victoire contre la Gambie à Abidjan.
Ah, vous avez réveillé le champion qu'il était déjà à l'âge de 9 ans, en train de soutenir Mohamed Ali devant sa télé. En Europe, quart de finale retour de la Ligue des Nations et les Bleus qui vont tenter leur remontada face à la Croatie au Stade de France.
Ouais, ils ont un retard de 2 buts, ils ont complètement manqué leur match aller en Croatie, défaite 2-0 des Bleus de Didier Deschamps, réaction attendue, réaction tactique aussi, pour résoudre le plan anti-Modric qui a fait beaucoup de mal au match aller. Il y aura 3 autres quarts de finale, bien sûr. L'Italie contre l'Allemagne à Dortmund, 2-1 pour l'Allemagne au match aller. Il y a eu 1-0 pour le Danemark contre le Portugal. Et puis, il y a un très intéressant, Espagne-Pays-Bas, il y avait eu 2-2 au match aller. Tout est très serré dans ce quart de finale.
La Formule 1, la deuxième manche de la saison qui avait lieu en Chine. Et pour ceux qui sont fans, et ils sont nombreux, de Lewis Hamilton, on a de mauvaises nouvelles pour eux. Ça s'est très mal passé pour les Ferrari.
Ça s'est très mal terminé parce que ça avait très bien commencé. Hamilton qui avait remporté la course sprint. Ouais. Mais là, le Grand Prix du dimanche, ça s'est totalement écroulé pour Ferrari. Les deux Ferrari disqualifiés après la course alors qu'elles avaient terminé 5e et 6e. Hamilton, c'est un problème de fond plat. Charles Leclerc, c'est un problème de poids de la voiture à l'arrivée. Donc vraiment, dimanche cauchemardesque pour Ferrari. Mais dimanche de rêve pour McLaren qui fait le doublé. Premier Piastri, deuxième Norris. Le podium, il est complété par George Russell, le Britannique de Mercedes.
Rendez-vous dans 2 semaines au Japon pour le prochain Grand Prix. On en parlera peut-être avec vous. Vous êtes un peu notre monsieur F1 dans Mondial Sport. Baptiste Leduc, à bientôt Baptiste.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Il y a 50 ans, le 30 octobre 1974, Chibanda Wata Joudex écartait les cordes du ring dressé au centre du stade Tata Raphaël. Pourquoi ? Eh bien, il fallait laisser monter un boxeur sur ce ring, un certain Mohamed Ali. Aujourd'hui, âgé de 71 ans, ce témoin extrêmement direct du Rumble in the Jungle, et qui était aussi président du fan club de Mohamed Ali à Kinshasa, nous guide à travers ses souvenirs. Il nous fait notamment visiter la salle de boxe où s'entraînait Mohamed Ali avant d'affronter George Foreman, auquel nous rendons hommage dans Mondial Sport.
J'ai 71 ans aujourd'hui et cet endroit, c'est la preuve que nous sommes les héritiers du stade Tata Raphaël.
Après combat, l'issue à droite.
Après le combat, Ali ne pouvait voir que d'un seul œil, car il avait reçu plusieurs coups. Il avait encaissé tellement de coups qu'il devait se réfugier dans les cordes.
S'installer juste dans la corde et s'imbier. Ce gars-là qui est bon technicien, c'est Ali Ngaou, c'est le KO first round.
Sans sa technique, il aurait perdu le combat dès le premier round.
Mais Ali Ngaou qui a maillé les mingi. Ici, c'est dans le vestiaire de Mohamed Ali. Le vestiaire qui avait été bien équipé pour Mohamed Ali. Il y avait des sacs. Donc, il y avait beaucoup de photos ici, dans cette salle. Et puis le musée, c'est là où on a passé. Ça, c'est le musée. Ici, c'est les salles où s'entraînait Mohamed Ali chaque matin avant d'aller au footing là. Ya yebisa kibiso ke coûte victoire za yangai amata kita.
Ali nous avait dit qu'il allait gagner ce combat, mais on ne savait pas par quel moyen. Et c'est sur place, alors que le combat se déroulait sous nos yeux, qu'on a assisté à la démonstration. Il accusait beaucoup de coups, et sur certains, on croyait que c'était la fin. Foreman avait une vraie force de frappe, mais il est tombé sur un stratège. Et c'est comme ça que Mohamed Ali a gagné.
La force est à mais à côté de la technicien, il y a un gros Mohamed Ali à gagner. A garder et le coupon à Koyeb et sa banne à Nabako qu'on a bisou qui est tango
à
combat.
Je montre tous ces souvenirs à mes enfants et à mes petits-enfants pour leur dire que j'étais là, que j'ai vécu ce combat et c'est moi qui tenais la corde pour permettre à Mohamed Ali de monter sur le ring.
Mohamed Ali Bazoyana, Bamobil Bazolanda, Gamutra Mataki. La Tongoli Singa, aïe à côté.
Passionnant, non, ce témoignage et le silence qui suit ce reportage est encore un petit peu ce reportage d'Olga Massangou. Un peu de jalousie, Marine Camara, quand on entend des gens qui ont été aussi près de l'histoire.
Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile d'assister, j'ai l'impression, en tant que public, à de gros combats comme ça. Aujourd'hui, les salles de boxe, bah, c'est Las Vegas, c'est Riyad, etc. Donc, et en boxe française, malheureusement, c'est difficile d'avoir aussi des rencontres de très haut niveau. On peut parler de l'échec de Mbili contre Sadjo. Donc forcément, on est envieux et même en tant qu'athlète, on a envie de participer à de tels événements. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve.
On entendait au début d'émission Souleymane Sissoko qui a décidé de combattre en Afrique, en Guinée équatoriale. Après le Rumble in the Jungle, finalement, l'Afrique n'a pas tellement transformé l'essai. Il n'y a pas eu de grands combats qui ont marqué l'histoire de la boxe depuis ce combat légendaire de 1974, Malik Daou.
Il faut dire que la boxe en Afrique, c'était une affaire de mécènes. Alors, une fois que les mécènes ont disparu peu à peu, la boxe est tombée dans une forme d'anonymat qui perdure encore aujourd'hui. La boxe est redevenue un sport mineur en Afrique, malheureusement.
Est-ce que, juste pour rester sur le contexte de ce Rumble in the Jungle, il y avait aussi des forces, on va dire, financières et politiques importantes. Donc, c'était Mobutu qui voulait organiser ce combat-là. Et puis, Don King, le fameux promoteur... qui, lui, est encore là, je crois. On pourrait bientôt prévoir une émission hommage à Don King. Il y aurait pas mal à dire aussi. Mais bon, il y avait quelque chose comme ça, des forces comme ça qui tiraient les ficelles derrière.
C'est-à-dire que si Mobutu ne finance pas à hauteur de 10 millions de dollars, il n'y a jamais le combat qui a lieu à Kinshasa. Et là, l'intelligence de Don King, c'est qu'il fait signer aux deux boxeurs respectifs, sans qu'ils le sachent l'un et l'autre, un contrat. En disant que là, vous étiez à moi pour un combat. Il leur garantit chacun entre 3 et 5 millions de dollars. Et il va voir Mobutu en disant, j'ai un contrat avec les deux boxeurs, vous me donnez X. On était autour de 10 millions de dollars et on fait le match. Et c'est comme cela qu'ils montent. Donc oui, c'est un mécène, c'est Mobutu voilà, qui réussit à financer ce combat. Ils viennent se greffer derrière les chaînes américaines et la diffusion en audiovision. Mais sans Mobutu, il n'y aurait pas eu... Et malheureusement, c'est vrai qu'en Afrique, il y a Lennox Lewis a boxé en Afrique du Sud pour un titre de champion du monde, le grand Lennox Lewis. C'était en Afrique du Sud. Il n'y a pas eu depuis un combat important.
Alors, pour que ce combat rentre dans la légende, il ne faut pas simplement qu'il se tienne à Kinshasa. Il faut aussi qu'il soit beau, que le vainqueur soit magnifique, mais il faut peut-être aussi que le perdant soit pas mal non plus. Est-ce que George Foreman, il a aidé aussi à la postérité de ce combat? On parle évidemment toujours de Mohamed Ali, mais est-ce que c'est parce qu'il y avait aussi Foreman en face de lui, Xavier Foubabokane, que ce combat est rentré dans la légende? Et ça, forcément, ça vaut pour tous les grands combats.
Forcément, vous l'avez dit en début d'émission, il faut être deux pour faire un grand combat, et c'est parce qu'on avait un bon adversaire, un bon challenger, qu'on fait un bon champion. Donc c'est indéniable, effectivement, mais pour revenir à ce que vous disiez par rapport à l'Afrique, qui depuis n'a pas su finalement transformer l'essai, ou en tout cas capitaliser sur ce succès, moi, je pense, je reste optimiste, et je pense qu'en fait, l'Afrique reste encore une terre à conquérir pour beaucoup de promotions sportives. Beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ont envie d'investir dans le sport, voient qu'un peu, ailleurs, ça y est, c'est très développé, pour ne pas dire bouché, et l'Afrique étant la terre encore avec le plus de potentiel, les regards se tournent sur l'Afrique. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans le monde du MMA, et je pense que l'anglais, ça va être pareil.
Voilà, vous parlez aussi un peu pour le MMA, donc on ne sait jamais. Peut-être que ce sera aussi du côté du MMA que ça viendra. Donc, vous le disiez, il a fait quand même un beau perdant, George Foreman, et sa carrière est loin de s'arrêter à cette première défaite. C'est quand même pas mal déjà de commencer dans le monde de la défaite après avoir glané des titres de champion du monde par le Rumble in the Jungle. Ceci dit, ça va quand même lui porter un coup, et sa carrière va être fantastique derrière, assez extraordinaire au sens premier du terme. Jean-Philippe Lustig, ça va passer par des détours assez inattendus. Juste une petite bande-annonce et puis on en parle tout de suite dans Mondial Sport.
Mais dans un combat, ton pire ennemi dans n'importe quel combat, il est là.
Toute ma vie, je n'ai su faire que deux choses.
Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce repas.
On devrait pas t'appeler Foreman, on devrait t'appeler Pouilleman.
Frappez et envoyez mes adversaires au tapis.
Comment je m'appelle, gros débile ? George
Foreman. Big George Foreman, c'est un film qui est sorti en 2023 que je n'ai pas vu, mais j'ai trouvé la bande-annonce sur Internet. Ça doit raconter la vie assez incroyable de George Foreman entre... On l'a dit, une enfance difficile, des débuts fantastiques sur les rings, une première défaite dont on a largement parlé. Et alors, entre en scène assez vite un autre pan de sa trajectoire, à savoir la religion. C'est ça, Jean-Philippe Lustig ?
Alors, exactement, pour être succinct, lorsqu'il est battu en octobre 1974, le monde s'arrête pour lui. Il est brisé. Hein. Il met 15 mois à s'en remettre. Il ne boxe plus. C'est la fin de sa vie, il le dit avec le recul. Et il va reboxer, il va faire 3 combats jusqu'en 1977. Il va être battu à Porto Rico par Jimmy Young en mars 1977. Donc, il n'a pas 30 ans. Et il décide d'arrêter sa carrière. Il est battu au point, il est allé au tapis. Et la motivation n'est plus là et il est l'ombre du boxeur qu'il était. Donc, cette défaite, et on sait à quel point l'importance, le mental est capital en sport, mais encore plus en boxe, quand on a été humilié, entre guillemets, d'être battu avant la limite. Et il est illuminé par à l'issue du combat, dans le vestiaire. Dieu est entré en moi. Ce sont ses propos qu'il a tenus. Et donc, il va
c'est
se consacrer.
C'est un born again, c'est les gens qui voient Dieu, qui ont la révélation.
Il a donc cette révélation, et à partir de là, il va se consacrer au sein de sa communauté, au sein de l'endroit où il a été élevé, au milieu des jeunes, de la pauvreté, de s'élever et donc devenir ce preacher, ce prêtre-là, dans sa propre église. Et ça va durer 10 ans. Il va prendre beaucoup de kilos. Hein. Ouais. Quand on disait 14, ça c'était sur son combat retour. Mais avant, il monte à 140, 150. Il mesure un 91, hein, George Foreman. Ouais. Ils ont la même taille avec Ali. Entre 90 et 91, en fonction de... Voilà. Bref. Et donc, il va mettre 10 ans. Et c'est Tyson qui, nous sommes en 1987, qui est le roi incontesté et qui lui rappelle ses souvenirs, l'incite à reboxer. C'est-à-dire que Tyson a un tel impact. Il est champion du monde à 22 ans, devant 86, Tyson. Et lui, à ce moment-là, tiens, l'idée germe. Il a besoin d'argent au sein de la communauté. Et il se dit, pourquoi pas ? Et c'est là où, justement, le rêve devient réalité. Et Foreman passe dans une autre dimension médiatique, économique, peut-être qu'on en parlera, mais il y a autre chose. Et à quel point il va toucher les gens. Mais ce n'est pas le cas. Il n'était pas, il n'avait pas ce côté populaire et aussi aimé. C'est bien après qu'il va être le Big George.
Il faut dire qu'il réussit un exploit, puisqu'en 1994, eh bien, il récupère la ceinture qu'il a perdue contre Mohamed Ali en 1974.
C'est unique dans l'histoire du sport.
Kinshasa, 20 ans après, il récupère sa fortune. On écoute les archives de l'époque.
The dream has happened. Heavyweight history has happened. The winner, and once again, heavyweight champion of the world, Big
George Foreman.
Face à Moorer.
Michael Moorer.
Michael Moorer, 1994. Là aussi, vous étiez devant votre télé, Malik Dao.
Ah oui, j'ai regardé ce combat parce que tactiquement, c'était compliqué pour Foreman parce que Moorer, c'est un gaucher. Et Foreman a du mal contre les gauchers. La garde du gaucher, quand on n'est pas fort tactiquement, parce que c'est vrai qu'il avait des qualités de puncher, mais ce n'était pas non plus quelqu'un qui était très fin tactiquement, qui frappait fort, il frappait lourd. Et contre Moorer, il a eu d'énormes problèmes. Et il était même mené dans ce combat. Et puis, il y a cette fameuse droite, après un jab du gauche, cette droite qui met Moorer au tapis, qui ne se relève plus. Et là, on part du George Foreman renfermé, méchant, que Ali nous avait
vendu
à un Foreman qui a trouvé Dieu, qui a trouvé la foi, qui se bat pour sa communauté et qui devient un Foreman sympathique. Et
on entend des acclamations, c'est l'idole du peuple.
Il était transfiguré. Quoi.
En même temps, Marine Camara, Xavier Foupavocam, vous avez combattu, vous combattez encore dans le cas de Marine Camara. Vous imaginez, il a 45 ans, un peu plus même, au moment où il redevient champion du monde. On parle de quelqu'un qui était champion olympique en 68, champion du monde au début des années 70. Vous imaginez un tel retour? Il y a la longévité, mais en plus le retour après avoir arrêté, Marine.
Exactement, c'est vrai que je pense que pour beaucoup de gens, il a élargi le champ des possibles, parce que souvent on a cette image de un champion doit être jeune, doit être frais, doit être motivé, doit avoir une grosse forme physique, et finalement il a cassé tous ces clichés-là, parce qu'il arrivait un peu en surpoids, lent.
Ah oui, quand on voit les images, exactement. C'est surprenant, ouais, effectivement.
Et quand on le voit, il paye pas de mine, on a l'impression entre guillemets qu'il s'entraîne pas, et finalement il se dit regardez, je suis capable parce que j'ai envie, parce que je crois en moi et parce que, surtout, je me suis remis en question. Parce que, comme ça a été mentionné, il a eu un peu cette crise existentielle qu'il a retourné vers lui-même et c'est peut-être de là qu'il a trouvé sa force, en se recentrant sur qui il était.
Qu'il faut signaler, c'est que les Américains, contrairement aux Européens, ils n'ont pas peur d'afficher leur foi. Et quand Foreman dit « j'ai trouvé Dieu », il y a eu une vague de sympathie qui arrive comme ça autour de lui parce que...
Et d'ailleurs, c'est au moment où il s'agenouille pour prier que les acclamations sont encore plus
c'est
fortes.
Mais pour moi, c'est encore plus fou, en fait, parce que on a toujours l'image, l'idée d'un champion qui construit sa carrière en constante progression. Et finalement, le devenir champion, c'est le top, le summum, c'est l'aboutissement, finalement. Lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu champion. On dit que c'est encore plus dur de rester champion que de le devenir. Ouais. Derrière, il a plongé, il a connu le fond des abysses avant de revenir, rattraper ce retard, puis ensuite progresser à nouveau et redevenir champion. Et en ça rend le parcours exceptionnel. Et je pense que c'est pour ça, avec Marine, qu'on a vu d'ici la chair de poule sur la nuque de Jean-Philippe. Parce qu'il a revécu le moment tout à l'heure à l'audio.
Et parce que là, vous l'avez revécu à l'audio, mais vous l'aviez vécu
en direct, tout simplement. Ouais, j'y suis. Et d'ailleurs, j'avais même eu la chance de son retour en 87 de commenter les combats pour Canal. Après, j'ai quitté Canal, donc je vais là-bas pour Europe. Donc, je suis pas en train de commenter pour Canal en 94 parce que j'ai quitté la chaîne. Mais toujours est-il que j'ai suivi cette carrière de Foreman et vu son évolution. Et lorsque l'on disait qu'il était en surpoids, bien sûr, mais il n'a jamais été autant affûté que ce soir-là. Mmh. Il était à 114 kilos. Et il a revêtu un symbole fort, son short en coton, qu'il portait 20 ans auparavant. Wow. Il y a eu des signes très forts. Angelo Dundee, qui était dans son coin, c'est incroyable, alors qu'il était avec Ali 20 ans auparavant.
Le coach mythique d'Ali.
C'est incroyable.
Et le coach de Foreman pour son retour.
Et il était pas sûr de la victoire, parce qu'on ne sait jamais, mais Teddy Atlas, l'entraîneur de Moorer, était très inquiet à la conférence. On sentait. Et il savait que Moorer avait une sorte de fragilité et que si la droite pouvait passer, elle allait être terrible. Et absolument, il est mené au point, bien entendu. Et dans le coin... Là, Atlas lui dit « Fais attention, on n'a pas gagné, fais attention !» Et l'autre, il va baisser son bras. Il baisse donc sa gauche, puisqu'il est donc gaucher, donc il boxe avec le poing droit en avant, le jab. Et il sait, et Foreman le savait, que si elle passait, il allait rester. Et on le voit, il est électrocuté. C'est, je pense, le coup. Normalement, il avait parlé d'un coup céleste lorsque Frazier est mis au tapis. Le célèbre, donc, en 71 au Madison, au 14e round. On peut parler de ce coup céleste aussi. C'est quand même un moment clé dans l'histoire du sport.
La main de Dieu.
Non, mais c'est ça. Ce qu'a fait Foreman, c'est hallucinant dans l'histoire du sport. Honnêtement, c'est quelque chose de prodigieux. J'ai une admiration, enfin...
hallucinant aussi la manière dont il est devenu millionnaire loin des rings, très très loin des rings. Alors, il a sûrement gagné beaucoup d'argent par la boxe, mais alors en a-t-il gagné autant qu'en vendant des barbecues à son nom? C'est tout un mystère, car oui, George Foreman est aussi associé à des barbecues extrêmement célèbres outre-Atlantique.
The following program is a paid presentation for George Foreman's lean, mean, fat-reducing grilling machine.
The George Foreman grilling machine is very special. Everyone should have one. Number one, because this grill has something no other grill has. Slants. You put your food in and the grease rolls down. And because of the slanting of it, the fat rolls down. It's different.
Alors, je dis barbecue, c'est plutôt des espèces de machines à croque-monsieur. Hein, si on devait décrire ça, vu de France, on peut faire des paninis, des gaufres avec.
C'est ça.
Et alors, il y a beaucoup de vidéos YouTube qui vous disent à quel point c'est merveilleux. C'est mythique, apparemment, dans l'histoire.
Il est venu en France faire une promo du grill.
C'est vrai.
Il est venu il y a 20 ans.
Donc, dans les appareils qui servent à faire à manger à la maison, apparemment, le George Foreman Grill est absolument mythique. Comment on se retrouve à vendre des barbecues? Et c'est à peu près au même moment que son retour au sommet des rings, début des années 90, il se met à vendre des barbecues. Et alors là, c'est jackpot. Comment ça se passe?
Mais il devient donc multimillionnaire parce qu'il a gagné plus sur le ring dans son comeback que durant toute sa carrière quand il était champion du monde. Premier élément. Mais on était dans quelques millions de dollars à chaque match. Donc, il gagne autour de 25 millions de dollars, ce qui est beaucoup d'argent. En revanche, c'est multiplié par 10 grâce au grill et grâce aux pubs qu'il va faire. Et donc, pour aller dans le sens de ce que l'on dit depuis qu'on est ensemble autour de cette table, c'est exactement l'histoire de Foreman. Et c'est pour ça qu'elle est très touchante, elle est unique. C'est à quel point il est entré dans les familles américaines. Ce grand-père qui devient chauve très vite parce qu'il se rase la tête, il touche tout le monde et il a cette extraordinaire jovialité, cette sympathie et puis ce parcours atypique. Donc, et c'est pour ça que les pubs se l'arrachent. Il est consultant également sur HBO en tant que champion. Et là, il plaît parce qu'il fait de l'humour, il est fin. Tout ce qu'il dit, c'est très sensible. Voilà, parole d'évangile. Exactement. Et en plus, sur un plan pugilistique, il est vachement fort parce qu'il connaît. Donc, il coche toutes les cases. Il est génial.
Vous voyez, Marine, le méchant a effectivement eu le droit à sa rédemption dans l'histoire de George Foreman, qui est donc décédé à l'âge de 76 ans d'une longue maladie. C'est ça.
Oui, en fait, elle est relativement rapidement parce qu'il est encore en bonne santé, comme le disait le Bobaroum l'été dernier, et les choses sont accélérées. On voit les dernières photos, malheureusement, mais c'est pas la boxe qui l'a précisé, comme malheureusement on pourrait imaginer. Non, à 74 ans, il frappait encore très fort, il était imposant, il avait toute sa tête et tout son corps.
Et j'ai lu qu'il avait 12 enfants, dont 5 garçons, tous prénommés George. Voilà, c'est donc je ne sais pas si tous les enfants de Malik Daho s'appellent Malik. Je ne pense pas, mais merci quand même Malik Daho d'être venu. Merci Jean-Philippe Lustig, merci Xavier Foucault-Pocam, merci Marine Camara. C'est tout ça maqué à la préparation. Claudio Battista à la réalisation. À la semaine prochaine pour Mondial Sport.